Well, it's a pleasure to be here again today to talk to you about some of the issues of media sustainability. And I want to outline some of the issues that are involved, particularly in pursuing economic and business sustainability, not only in Africa, but in other countries. We all recognize that broader media development efforts have been focused on developing communications infrastructures, legal and regulatory systems, media ownership activities, and media education and professionalism. And these are common issues, but it's become progressively clear that these alone are not going to produce media development. And the reason for this is that media face additional sustainability issues that require significant emphasis on issues of economic and business aspects of sustainability, something that has not been well addressed in decades past. Now, sustainability in economic and commercial terms involves the ability of firms to continue their activities, to endure over time. This doesn't mean they become immortal, but it means that they have a stability associated with their operations that allow them to maintain those operations for some period. And these factors that are involved here in sustainability include things like financial factors, production abilities, consumption activities, the market itself, the personnel of the companies, and the managerial concerns related to the ability to obtain resources, to effectively operate, to manage, govern in the enterprises, and to develop resiliency to respond to changes and uncertainty that inevitably occur. Now, our interest in media sustainability is not unique nor isolated. It's part of a growing recognition during the past quarter century that the sum of all human activities, agriculture, manufacturing, energy production and consumption, trade, all have lasting consequences, and that these affect economies, the environment, and the quality of life around us. And this approach recognizes the challenges of resource depletion, pollution, contamination. And so sustainability efforts that take place in many arenas around us are concerned about whether we are destroying the ability to maintain levels of current activity in the future. And it's in this context that we consider media development and what is necessary to improve and maintain effective media and communications throughout the world. Those who have participated in and closely watched media development efforts over the years have lost much of the naivete that early proponents had. Those people believed that it was as simple as helping others establish media operations. It soon became evident to all of us that there's a range of social and political factors at play, much less the challenges of just obtaining skilled personnel, supplies, and equipment repairs. And hopefully today we are approaching these issues with a much greater dose of realism. For others, challenges related to media development occurred because there are highly normative beliefs involved in media development. There is the belief that media are central to democracy, that democracy cannot exist without media, and that media engage citizens, leading them to participate more in civic life. These normative arguments, however, are actually backed by very little evidence, and we use them on a regular basis, and it's what we sell to our funders and to our supporters very often as we work in media development. But research, in fact, has made it abundantly clear that we have to distinguish between the activities of media during processes of democratization and those that take place in established democracies. And we now recognize from much research that media can actually hinder democratization as much as help produce it. A reflective view of media development programs from the past half century lead us to a number of conclusions about their efficiency. And I think it's important for us to understand these as we go forward in our discussions and as we look for more ways to improve development. The first conclusion is that most media training courses and media operations established from aid funds are part of development programs that have been managed to produce primarily short-term rather than long-term results, if they produced results at all. And Western development agencies and programs have tended to pursue media development efforts that support their home nation's immediate foreign policy objectives rather than longer-term development objectives. The consequence of this is that much media development efforts tend to be uncoordinated, sporadic, and unable to create developmental trajectories that build upon earlier efforts in the particular region. Thirdly, many media development efforts have sought to replicate media forms and practices found in developed nations, without fully recognizing wide differences in the relative importance of media types in various locations. And what is worse, there's often an effort to recreate media types and systems that are declining or failing in the developed world, which leads us to wonder why we think that's a good idea to transfer those practices. A fourth conclusion is that there has been a great overemphasis on developing commercial media, overstating their independence from government and elites, and this has tended to promote the development of mid and large-sized profit-making firms rather than other forms and sizes of media, such as community-operated and subordinate media, which often have greater social impact. And fifth, teaching Western journalism norms and practices has widely failed to yield improvements in journalism over decades of activity. And this is because much of those what is taught has failed to account for the social and cultural realities on the ground and focused on teaching rather young journalists who've not been able to overcome the entrenched norms and practices once they move into news organizations on the ground. Now, these and other challenges have led to a great deal of disquiet among those who regularly take part in on-the-ground media development activities, as well as those who study media development policies and efforts. And so there has been a growing effort and emphasis in recent years to try to stabilize development efforts, to pursue more realistic objectives, and to find innovative ways to support communications and news distribution within communities in the developing regions. Now, I want to talk to you a little bit in the remaining time I have about some work that UNESCO has been doing in this area of business and financial sustainability. Because during the past decade, a major shift has occurred in their media development efforts, with greater emphasis being placed on increasing the viability of media in economic and business terms and improving the capacities of their staff in those terms. This effort became clear when UNESCO began revising its model curriculum for journalism education in developing countries. And in updating that curriculum, it expanded the focus to developing competencies for sustaining media and becoming more self-reliant. It sought to give journalists and media firms knowledge about how to improve the environment in which they operate and how to engage in strategies and practices that promote sustainability and viability of their media activities. In the interest of transparency, I do want to note that I was part of the project developing that curriculum and am not perhaps as critical of it as others might be. The decision to develop the curriculum, however, was notable because it represented a shift in thinking that somebody would have to do something to help media to determine what media personnel themselves could do and what tasks they could undertake with the proper skills. It also represented a move from a focus on political and social system concerns, which are much more difficult to control, to more economic system concerns, for which strategies and practices can begin to add some measure of stability. Now, that effort produced a suggested curriculum that specifically focused on media sustainability for community media, startups, and commercial firms. It emphasized management and governance practices. It established business models and financial revenue stream choices. It showed how to oversee the financial health of a media enterprise and how to increase industry cooperation and strength in a particular location. That curriculum has now been integrated into some educational institutions in Africa and elsewhere, and it's being used as the basis for some industry training programs. And we are receiving mixed, as expected, response to it. UNESCO also then used this viability and sustainability approach when the International Program for the Development of Communication began re-examining the media development indicators. Those of you who use the media development indicators know they are used to assess the state of media development in various nations or locations. Now, that effort has established a new category of indicator for the media development indicators. And it focuses on economic, financial, and managerial requirements for sustainable, independent, and pluralistic media. It does not do away with the existing indicators regarding law and regulation, plurality and diversity, democratic discourse, professional capacity building, infrastructure capacity, but in fact builds upon those and subsumes some of them as part of it. And I had the opportunity to work with Deutsche Welle Academy, UNESCO, and a number of other professionals in formulating and validating those indicators. The results are that we now have indicators focused on news and public affairs media that are operated on a range of platforms, including print, broadcasting, and digital platforms, that are applicable to a range of ownership and operational types, including private, community, and publicly supported media. And these operate at both national, regional, and local levels. The indicators also recognize great differences in country size, linguistic group needs, differing media industries, and enterprise sizes, allowing it to be applied in a variety of different ways. What these indicators do is very much what other media development indicators do. By looking at the extent to which the factors are present in a country and making it possible for media to grow and become viable there. And these kind of indicators can be undertaken as part of a full media development rule or one focused merely on the economic and business activities. Involved in this process are 7 key indicators with 40-some sub-indicators that can be used to, depending on data availability conditions, it can be undertaken as a full deep assessment or as a light assessment along the way. The basic indicators are things such as the presence of a supportive economic and business environment generally, not just for media, because without that, it is impossible to have a supported business environment for media if it doesn't exist for others. So it concerns things such as the state of the economy, household income, accesses to resources that are needed by business enterprises. It also focuses on the structure and scope of the media economy, the types and locations of media, the availability and access to those media by the public, the languages served, and the degrees of competition that are involved there. It looks at the labor market, employment, wages, education, training, professional organizations representing labor. It pays attention to the capital and financial environment for media. What's happening in terms of equity positions, operating capital, advertising and other revenue sources, subsidy conditions, many of the different issues that concern all of us that are involved in media development. It looks at issues of financial health, revenue growth, profitability, asset growth, debt service, the general position of the firms. It focuses on organizational structures and resources within the media firms, looking at how they support or harm market sustainability. It puts a focus on strategy and plans, company arrangements, market information, company governance, all of which are critical for sustainability. And finally, drawing upon the UN post-2015 development agenda, it looks at the contributions of media to national economy. And there is this assumption that media in developing nations produce little for the national economy. And in fact, in many countries, it's 1 to 2% of the national economy are accounted for by media operations. So all of these are put together in a way that allow developers to make a realistic assessment to understand the viability and sustainability of media, and to identify factors that are present or absent and focus on developing and improving them as part of general and media development efforts. Now, despite such efforts to move more into issues of business and financial sustainability, there is no panacea for media development. And what it requires is continuing, ongoing, rather than one-off projects. Unfortunately, most of the projects we engage in tend to be very short-term and one-off projects, with agencies moving on to other countries or other issues or other places of interest. So we need to reflect as we engage in media development on why we're engaging it and what we're trying to achieve. One of the biggest limitations of many media development efforts is they do not make clear whether they're engaging in media development for its own sake or are part of a broader effort to deal with democratic enhancement, national economic development, or community development strategies. And where media development efforts fit into those objectives, it's crucial to determine those purposes and projects, because that determines how they are evaluated and whether or not they are actually meeting needs rather than merely just surviving. Now, as our day progresses, speakers are going to address the challenges of developing skills and knowledge needed by media personnel, obtaining capital for media investments, operating domestic media in a globalized world, and providing services from abroad. And these are all interesting and important topics, and I'm looking forward to the presentations. I would like to, however, raise a few questions and caveats for us to consider and keep in the back of our minds as we move forward. First, are we focusing on the right types and sizes of media? Are we ignoring media that might more effectively serve the needs of local populations? Second, is it wise to develop in media in Africa that take institutional forms and practices that are struggling to survive in Europe and North America? Will they provide the sustainable future that we hope for? Third, we need to consider what the domestic consequences are of promoting foreign direct investment in African media. What forms are more or less helpful in promoting sustainability of domestic media and harming others that may, in fact, be there? I don't have the answers to those questions, and I think many of us don't, but they are things we need to be concerned about as we look forward to discussing current development practices. And they need to be in our minds as we consider how to better advance the media enterprises and system in Africa, because we would not be here if that is not our primary purpose. Thank you.
Thank you very much, Robert. We just go over to the presentation of Sylvain Bellêtre of Balancing Act, who will give us some data.
Alors, je vais enchaîner en français parce qu'apparemment, il y a plus de francophones que d'anglophones aujourd'hui. Donc, je vais parler. Je vais vous donner des chiffres sur le. Je suis trop près. D'accord, c'est trop fort. Je vais vous donner des chiffres sur le développement des médias audiovisuels en Afrique. Ce sont des chiffres rares, très durs à obtenir. Quand il y en a un qui apparaît, on saute dessus tellement il y en a peu. Tout ça parce que l'économie est très souterraine, entre guillemets, en Afrique. Peu de chiffres, les chiffres réels sont annoncés. Jusqu'à 90% de l'économie est souterraine. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres. Et quand on lit les chiffres de l'ONU, de la Banque mondiale, etc., il faut prendre ça avec une pincée de sel, parce que les trois quarts de l'économie n'est pas dans les chiffres. Voilà, ça c'est une première chose, et c'est très important sur l'Afrique. Alors, le secteur audiovisuel en Afrique est très, très présent, très en pleine explosion. Moi j'ai commencé à observer l'Afrique depuis 2008, ce secteur précisément, et il a littéralement explosé. Alors pourquoi l'audiovisuel ? Parce que tout simplement, bon, parce que ça demande beaucoup plus de financement évidemment que la presse ou bon, je peux inclure la radio, mais voilà, ça demande plus de financement dans les médias que la presse, et c'est la raison pour laquelle on se concentre dessus. Parce qu'on vit, nous vivons, enfin Balancing Act vit d'études sur mesure. Alors, donc, on a regardé, on a commencé à analyser les chiffres de l'audiovisuel en 2010. On a eu une grosse étude qui nous demandait de recenser toutes les chaînes de télévision par pays en Afrique. Alors, c'était à l'époque des chaînes analogiques, free-to-air, gratuites, et on en avait dénombré 590. Ça, c'est sur tout le continent africain en 2010. À ce jour, aujourd'hui, nous sommes à... Attendez, je retrouve le chiffre. À 710, à peu près. Alors, c'est des chiffres qui sont assez... qui bougent constamment. Surtout, par exemple, en RDC, il y a jusqu'à 100 chaînes de télévision. Au Nigeria, il y en a pas mal également. Certaines se montent, vivent 1 ou 2 ans. Et puis ils ferment la porte pour des raisons économiques ou politiques. Bien souvent, beaucoup de chaînes de télévision sont montées par des organisations religieuses ou politiques. Et souvent, il y a des chaînes qui naissent 1 ou 2 ans avant des élections et qui disparaissent après les élections. Donc en tout, on arrive à, en moyenne, à peu près plus de 10 chaînes par pays, sachant que les deux exceptions sont donc la RDC avec une centaine de chaînes et le Nigeria avec environ 130 chaînes, sachant que dans ce chiffre de 130 chaînes, en fait, les trois quarts sont publics. Ce sont des, et je vois qu'il y a des Nigériens ici aujourd'hui, ils pourront le confirmer. En fait, c'est des chaînes locales sous le chapeau de la NTA, la National Television Authority. Alors, je peux parler un petit peu du paysage francophone, puisqu'il y a pas mal de francophones. Donc, en pays francophone, historiquement, bon, il y a eu évidemment le Maghreb qui produit pas mal de chaînes publiques. On a ensuite le Sénégal, qui a toujours eu un paysage audiovisuel assez dynamique. Et là, récemment, avec le lancement de la TNT, qui a encore plus dynamisé le secteur, de nouvelles chaînes se sont créées. On a également la Côte d'Ivoire qui veut se présenter comme le nouveau hub de l'audiovisuel en Afrique de l'Ouest. Donc le gouvernement a mis beaucoup d'argent sur la table, a investi dans l'opérateur public qui s'appelle RTI. Et on a des chaînes donc, on va dire, panafricaines francophones, dont celle évidemment... partenaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui vient d'annoncer des chiffres. Donc, en l'occurrence, c'est TV5 Monde, qui a une chaîne TV5 Monde Afrique, et également une chaîne TV5 Monde pour les pays arabes. Donc deux chaînes principales, et ensuite ils ont des émetteurs un peu partout. Alors eux ont une audience en Afrique de 13,8 millions de foyers télé. Ce qui représente, alors en Afrique, faut généralement multiplier ce chiffre par 5, 6, sachant qu'un foyer, c'est généralement en moyenne, hein, 5 à 6 personnes, voilà, plus évidemment il y a les cafés, les bars, etc., qui attirent beaucoup de monde. Donc moi je pense que, enfin, en regardant les chiffres et par expérience, ce chiffre de 13 millions, il est un petit peu sous-estimé parce que ça ne prend pas en compte le piratage qui est énorme dans certains pays, Cameroun, Sénégal historiquement, etc. Donc pareil, il faut prendre ça avec une pincée de sel, 13,8. Et il y a également énormément d'opérateurs payants qui piratent. Parce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, on appelle les opérateurs araignées. Donc, les opérateurs araignées, c'est, il y en a un qui s'abonne à Canal, Canal+. Ensuite, ils revendent ça à tout le bâtiment ou tout le quartier. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, les chiffres. Voilà. Ensuite, France 24 a également annoncé des chiffres. Il sera à peu près à 20 millions de téléspectateurs. Donc là, il faut diviser par 5. Pour voir le nombre de foyers télé. Alors ensuite, on a Canal+, toujours sur l'Afrique francophone. Ils sont passés de, en 2010, à peu près 400 000 abonnés à 1 700 000 abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un concurrent qui est arrivé, un Chinois, qui a tout simplement fait du low cost. Il y a évidemment les pirates. Et Canal+ a dit, bon, il faut changer la stratégie, ça ne marche pas, etc. On va combattre un peu les pirates et on va essayer de s'aligner avec Star Times, le chinois. Donc, en l'occurrence, c'est comme ça qu'ils ont réussi à atteindre le chiffre d'1,7 million d'abonnés. Et pareil, là, il faut multiplier le chiffre par 6 ou 7, selon les pays. Alors, je reviens juste sur TV5 Monde parce que j'ai oublié un chiffre qui est intéressant aussi, parce qu'il y en a tellement peu. TV5 Monde a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros en 2014, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Donc ils ont une régie pub qui s'occupe de la publicité pour l'Afrique. Alors ensuite, on a également des investisseurs chinois, j'en parlais tout à l'heure, Star Times, qui ont été très agressifs ces dernières années, qui ont lancé des opérations dans énormément de pays anglophones et qui ont démarré également dans les pays francophones. Et en parallèle, alors c'est un petit peu le bras du gouvernement chinois, et en parallèle, il y a également la télévision chinoise, CCTV, qui a une version maintenant française et qui diffuse en Afrique. Par ailleurs, entre parenthèses, il y a des séries chinoises également qui sont traduites dans certaines langues africaines et qui diffusent en Afrique. Donc les Chinois ont fait un réel effort d'investissement dans les médias, dans l'audiovisuel en Afrique. Et ça fait partie un peu de leur stratégie de partenariat à long terme. Et ils sont très patients, ils ont le temps. Et en même temps, ils sont très agressifs, ils africanisent leur contenu, ils achètent du contenu africain, ils produisent des chaînes. Donc, ils font ça à grande échelle. Et ils ont l'intention de s'implanter dans environ 25 pays, voire plus. Donc, ça, c'était Star Times. Alors, maintenant, le secteur qui est le plus intéressant, enfin, le plus dynamique dans l'audiovisuel, c'est tout ce qui est réseau de télé payante. Alors nous, on a dénombré à peu près 50 opérateurs, on va dire que c'est les principaux sur toute l'Afrique, 50 opérateurs de télé payante, sachant que là-dedans, il y a des pirates officiels, mais qui sont un petit peu protégés, etc. Et sinon, il y a les opérateurs légaux. Mais sur ces 50, il y en a 10 qui sortent du lot. Ce sont les 10 leaders qui ont le plus de parts de marché et de souscripteurs payants. Alors le numéro 1, c'est un Sud-Africain qui dépend d'une société qui s'appelle Naspers, qui est basée à Joburg, en Afrique du Sud. Et eux donc ont monté la société DSTV MultiChoice. Ils ont également ils diffusent en fait via le satellite, en numérique évidemment. Et ils ont également monté un bras qui s'occupe de la TNT. Et le nom de cette société, c'est GoTV, GOTV. Donc eux ont réussi à accumuler à peu près ils sont presque à 10 millions aujourd'hui. Pareil, ils sont passés de 5 à 10 millions en 5 ans. Donc la percée est assez phénoménale. StarTime a également connu une croissance fulgurante. Ils sont passés de 400 000 en 2010 à 5 à 6 millions d'abonnés aujourd'hui, à coup de gros investissements, très lourds. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, Canal Plus a fait une percée assez intéressante ces trois dernières années, passant à 1,7 million d'abonnés. Il y a un opérateur également est-africain qui a démarré de Nairobi, du Kenya, qui est implanté également en Tanzanie, etc. Alors eux, au niveau technologique, utilisent un mix de fibres et de satellites. Donc fibres sur Nairobi et ses environs, et satellites sur la région. Ils nous ont donné des chiffres, mais là, on va avoir des nouveaux chiffres lors du prochain Discord. Donc, c'est un événement sur l'audiovisuel en Afrique qui va se dérouler dans quelques mois. Donc, je préfère pas donner de chiffres pour Zuku. Et ils offrent également, c'est un des rares opérateurs à faire du multiplay, du triple play. Donc, ils offrent la fibre, donc Broadband Internet Access, accès au débit, plus la télévision payante. Plus le téléphone sur Nairobi et ses environs. Et sinon, pour le reste des territoires qu'il couvre, c'est juste de la télé payante. Alors ensuite, il y a un nouvel opérateur dans cette région d'Afrique de l'Est qui s'appelle Azam TV, qui a lancé il y a 2 ans et qui, pareil, a connu une percée assez incroyable. Ils sont à plusieurs centaines de millions d'abonnés maintenant et ils se développent très, très vite. Ils sont financés par un groupe agroalimentaire. Zuku, derrière, ce sont des fonds d'investissement américains. Alors ensuite, on a des gens aussi, des organisations qui font ce qu'évoquait Robert tout à l'heure, qui font des coups, qui tentent de se lancer sur une capitale sans forcément qui ont une réglementation, on va dire, souple et qui ne respectent pas forcément justement les droits d'auteur. Et en l'occurrence, cette société, c'est TNT Africa. Enfin, il y en a beaucoup. Mais celle qui a réussi à percer, c'est TNT Africa. Parce qu'ils ont fait ça de façon assez structurée, assez sérieuse. Et ils ont réussi à percer dans 3 pays. Donc, je crois que il me semble que c'est Congo, Cameroun. Et il en manque un, je crois que c'est Gabon. Mais ils ne veulent pas nous donner des chiffres, mais en tout cas, ils ont lancé la TNT avec des bouquets payants sur ces 3 pays. On a ensuite dans les pays lusophones, ouais, on a en Angola, Mozambique, on a des sociétés de télépayants qui s'appellent Zapzone. Ils ont dépassé le million d'abonnés. On a également la société Excaf au Sénégal qui a donc lancé la TNT avec des bouquets payants. On a OSN qui au départ est un opérateur du Moyen-Orient qui est assez présent en Afrique du Nord, télépayante aussi. On a également alors Orange. Orange donc l'opérateur de téléphonie qui offre en France depuis longtemps qui fait du multiplay, du triple play, du quad play, donc qui offre des bouquets de télépayantes et qui s'est bien étendu en Afrique, mais qui ont été très discrets et pas très agressifs sur tout ce qui était télépayante. Et pourtant, ils ont beaucoup de potentiel, mais ils ont concentré en fait leurs efforts d'abord sur les investissements, les infrastructures, avant de monter en charge sur tout ce qui est services à valeur ajoutée, dont la télé payante. Alors, eux seraient proches des 100 000 abonnés. Ça a bien marché, surtout à Maurice, un petit peu à La Réunion, un petit peu au Sénégal. Mais bon, ils ont été un des premiers à lancer l'IPTV, pour le coup. Mais ils sont pour l'instant assez discrets sur le sujet. Et après, on a des opérateurs nigérians, donc des sociétés comme MyTV, TrendTV, etc. Enfin, il y a toute une série d'opérateurs au Nigeria. Ça peut se comprendre avec la population. On est à peu près à plus de 170 millions d'habitants au Nigeria. Donc, le potentiel est énorme. Donc, à ce jour, pour ce qui est d'une télé à peu près légale, on va dire, on est autour des 17 millions d'abonnés en Afrique, sur tout le continent, 17 millions d'abonnés. Donc vous multipliez ce chiffre par 5 pour avoir le nombre de téléspectateurs. En 2010, on était seulement à 6 millions. Donc vous voyez la progression de 6 à 17 en 5 ans. Aujourd'hui, certains experts annoncent des revenus d'à peu près 1 milliard de dollars. Pareil chiffre à prendre avec des pincettes. Alors, quelles sont les projections ? Bon, là, c'est très difficile de toute façon de prévoir. Mais vu la progression des chiffres, si on continue cette progression, et sachant que la TNT est en train d'être lancée dans de nombreux pays africains en ce moment, on serait autour des 40 à 50 millions en 2020, voire plus, voire moins, selon les scénarios. Avec autour des 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc évidemment, ça attise beaucoup d'intérêt, ce marché de la télé payante. Et alors, à ce jour, je l'évoquais tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas vu énormément d'offres multiplées. C'est étonnant, pourtant, l'Afrique connaît une croissance fulgurante pour tout ce qui est mobile. La télé payante se développe à grands pas. Il est curieux encore de ne pas voir émerger des offres multiplées, pourquoi pas un multi-choice ou un Canal+, qui s'associe avec un opérateur mobile local, par exemple, qui aurait lancé la 4G, ou un opérateur fibre sur une capitale. Donc je pense que ça va émerger dans les années à venir, sachant qu'évidemment, ça ne toucherait pas l'ensemble de la population, mais ça toucherait les classes plutôt aisées qui peuvent se permettre d'acheter ce genre de services. Alors, un chiffre sur le satellite, puisque jusqu'à maintenant, donc les chaînes étaient diffusées principalement en hertzien analogique et via le satellite sur les bouquets payants, ou voire en gratuit également sur le satellite. Eutelsat a récemment... Donc, il y a trois opérateurs principaux en Afrique. Ce sont Eutelsat, Intelsat et SES. Eutelsat était plus focalisé à l'origine sur les pays francophones, mais en fait, maintenant, ils sont sur tous les pays. SES est basé au Luxembourg. Ils ont été très agressifs à un moment, et puis il y a une personne chargée de l'Afrique qui est partie, donc du coup, l'activité a un petit peu décéléré. Et puis Intelsat, l'opérateur américain, qui est un petit peu moins agressif qu'avant. Bon, en tout, Eutelsat a annoncé récemment un chiffre de 2200 chaînes délivrées via satellite sur l'Afrique. Et ce chiffre continue de croître. Alors maintenant, le sujet chaud surtout cette année, puisque il y avait une date butoir, c'est la TNT. Alors la TNT, donc c'est télévision numérique terrestre, qui a été lancée pratiquement dans tout l'Occident, qui utilise la norme. Alors en Europe, c'est DVB-T2. Ça va encore changer parce que cette norme évolue, c'est la norme technique. Elle devait être lancée en Afrique, disons qu'on devait couper, on devait passer de l'analogique au numérique, là cette année en juin 2015. Évidemment, lancer la télé numérique en Afrique, pour beaucoup de gouvernements, puisque c'est un projet très politique, pour beaucoup de gouvernements, ce n'était pas la priorité. Il y a des choses plus urgentes dans de nombreux pays que la TNT. Néanmoins, l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, a insisté en disant « Attention, si un pays bascule, il va y avoir des interférences avec les voisins, etc. En plus, votre matériel analogique va devenir obsolète parce que les fournisseurs d'équipements vont plus vouloir vous fournir du vieil équipement analogique. Ils vont dire « Non, il faut tout passer en numérique. » Vous allez avoir des problèmes au niveau technique, mais également au niveau des fréquences par rapport au mobile, parce qu'il y a un lien entre la TNT et le mobile, figurez-vous. Donc, si vous n'êtes pas au courant, c'est au niveau des fréquences, au niveau du spectre. Dans certains pays où le spectre est déjà très utilisé, il faut de la place pour les opérateurs mobiles, pour pouvoir lancer, par exemple, la 4G, etc. Donc, si la place n'est pas dans le spectre, il va falloir faire de la place. Et un des rares moyens de faire de la place sur ce SPED, qui est une ressource rare, c'est de libérer la partie chaîne analogique télé et tout passer en numérique, parce que là, on a un gain de fréquence incroyable. Donc la TNT, soudain, branle le bas de combat. Les politiques africains ont dit ah « oui, il faut qu'on lance la TNT, etc. » très, très vite. Et la date butoir, là, c'était juin 2015. Alors, certains pays ont fait ça il y a déjà quelques années. Et d'autres viennent de se réveiller et dire « bon, on va engager le processus ». Alors, à ce jour, nous, on a dénombré 6 pays qui ont coupé l'analogique. Donc, en anglais, on dit « analog switch off ». Et qui ont lancé le tout numérique. Donc je peux vous donner la liste des pays. On a commencé par Maurice il y a quelques années, la Tanzanie, Kenya, Maroc en partie, la Namibie presque complétée, le Rwanda et bientôt il va y avoir le Malawi. Les pays qui ont lancé le numérique mais qui gardent l'analogique, donc c'est du simulcast, on est à 16 pays. Je ne vais pas vous les lister. Les pays qui ont lancé des pilotes ou qui ont déjà déployé le réseau terrestre, on est à 12 pays. Il y a 12 autres pays qui sont en train de s'activer et de préparer le lancement. Il y a 10 pays qui n'ont rien fait. Et là, donc, je suis à 56 pays parce que j'inclus l'océan Indien. Donc, à ce jour, nous, on a dénombré 9 millions de foyers abonnés à la TNT en Afrique, environ 9 millions. Alors, la TNT, il faut savoir que c'est un investissement très lourd. On a vu plein de chiffres apparaître dans la presse, dans les dossiers, dans les discussions, etc. Il faut environ, à minima, 10 millions de dollars pour lancer la TNT juste sur les parties urbaines. Et ça peut aller jusqu'à 400 millions de dollars si on est ça à toutes les zones d'un pays. Par exemple, pour le Nigeria, on avait vu un chiffre de 426 millions de dollars pour déployer la TNT au Nigeria. Alors, ça a été lancé en partie au Nigeria. Souvent, c'est lancé dans les capitales ou dans les grosses villes et puis ensuite étendu au territoire, aux zones rurales. Au final, en moyenne, lancer la TNT dans un pays en Afrique, alors tout dépend de la taille, de la population, etc., on était arrivé à un chiffre de 127 millions de dollars. Pareil, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute la partie, il y a plusieurs postes dans les dépenses de la TNT. Il y a la partie déploiement technique, la partie communication aussi. Il faut que les populations sachent que c'est que la TNT, qu'ils comprennent, qu'ils achètent le bon boîtier, qu'ils n'achètent pas n'importe quoi, et qu'ils sachent comment brancher, comment régler les chaînes, etc. Donc la communication fait partie du budget. Il y a également le call center, s'il y a un problème, qu'on puisse appeler un numéro de téléphone. Il y a également des aides aux populations dans de nombreux pays. Il est prévu des aides pour les populations les plus pauvres pour qu'ils puissent s'acheter un décodeur. Donc généralement, soit on leur donne le décodeur, soit on leur rembourse. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais par contre, ce qu'ils ne prennent souvent pas en compte quand on regarde les budgets, c'est la partie contenu. C'est-à-dire que c'est bien beau de lancer de la TNT. C'est justement tout le problème, un des gros soucis à l'heure actuelle de la TNT en Afrique, si vous êtes impliqué dans cette histoire de TNT, c'est qu'on annonce des devis, on dit « oui, ça coûte tant de millions, etc. » Mais le gros problème, c'est le contenu. Quel contenu on va mettre sur cette TNT? Et puis, si ça coûte si cher et si ce n'est pas populaire, ça va être une catastrophe économique. Donc, voilà, lancer la TNT, c'est bien beau, mais encore faut-il qu'il y ait des chaînes africaines et des chaînes africaines de qualité. Donc, qui dit qualité dit production de contenu, dit studio, dit société de production, dit journalistes entraînés, etc., des experts. Enfin, c'est un investissement énorme. Et souvent, le gouvernement ne prend pas ça en compte. Il laisse ça au privé. Donc, ça reste un petit peu sauvage. Alors, dans certains pays, il y a une production de visuels phénoménale comme au Nigeria. Mais dans les trois quarts des autres pays, souvent, le marché audiovisuel n'est pas structuré. Il n'y a pas d'investissement de l'État. À part, l'Afrique du Sud aussi est une exception. Donc, voilà. Donc, c'est aussi un des défis de la TNT en Afrique. Et après, il y a d'autres problèmes. également. Voilà. Donc, très, très vite, je termine sur la TNT. Il y a deux acteurs panafricains sur la TNT. Donc, je disais tout à l'heure le bras TNT de Naspers qui s'appelle GoTV, qui a lancé la TNT dans 10 pays africains et qui a aujourd'hui autour des 2 millions d'abonnés. Parce qu'il faut savoir que la TNT en Afrique, ce n'est pas de la gratuite comme en France. Bien souvent, c'est une petite couche gratuite, mais derrière des bouquets payants. C'est comme ça qu'elle sera financée par les opérateurs privés. Donc face à GoTV, qui est sud-africain, on a StarTime, les Chinois. Ils ont réussi à lancer la TNT dans 14 pays. Ils veulent la lancer dans environ 25 pays. Ils ont atteint 4 millions. Ils disent entre 4 et 6 millions, ça dépend à qui on parle chez StarTimes. Un jour c'est 4, un jour c'est 6. En tout cas, ils ont pour objectif, d'ici la fin de l'année, d'atteindre 6 millions d'abonnés à leur offre TNT. Alors après, je vais passer très très vite quelques autres chiffres intéressants, parce que ça fait partie du développement de l'audiovisuel en Afrique. Alors il y a la VOD. La VOD en Afrique, au début, les gens du secteur étaient un petit peu sceptiques, parce qu'ils disaient, ouais, mais il y a le problème d'accès à Internet, etc. Mais c'est en pleine explosion. Alors les gens, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont dit, oui, mais de toute façon, il faut se positionner maintenant, parce que dans 5 ans, l'accès au débit en Afrique, ça va exploser avec tous les jeunes, etc. Puis la VOD, ça va, voilà, c'est un courant mondial. Donc, il faut se positionner maintenant, on va préparer la plateforme, et puis on va espérer que d'ici 5 ans, ça marche. Alors aujourd'hui, on a dénombré, on a fait une étude là-dessus, on a dénombré 120 plateformes de VOD liées à l'Afrique, avec du contenu africain. Alors ça a été monté par... plein de types, différents types d'organisations. Il y a des producteurs, il y a des distributeurs de contenu, il y a des chaînes de télé, il y a également des opérateurs de télé payante, mais il y a également des opérateurs télécom qui se lancent dessus. Alors pour l'instant, c'est un petit peu, si la télé en Afrique, ou on va dire l'audiovisuel en Afrique a 2 heures, la VOD c'est quelques secondes, c'est-à-dire qu'on... Pour l'instant, on ne connaît pas les résultats. Alors, à part quelques leaders du marché qui ont donné des chiffres, comme par exemple Iroko TV, il y a également un petit entrepreneur, la Sudaf, qui nous a donné des chiffres récemment. Il s'appelle Tulun Tulu. On arrive à avoir quelques billes, mais c'est, pour l'instant, c'est un petit peu, on est un petit peu dans le flou au niveau du trafic, etc. Par contre, ce qui est facile à obtenir comme chiffre, c'est les chiffres de YouTube. Donc, il suffit de regarder sur YouTube et vous regardez les chiffres des principales chaînes africaines. Et vous voyez qu'on arrive facilement au milliard sur une quarantaine de chaînes, que ce soit de la musique, que ce soit des ados qui parlent comme ça devant la caméra, etc. Donc, on peut dire facilement que YouTube est la première chaîne de VOD en Afrique. Et ensuite vient un opérateur, on va dire il y a 2 opérateurs privés qui ont eu des résultats très intéressants. Donc c'est Iroko TV qui a réussi grâce au départ à la diaspora, surtout aux États-Unis, un petit peu en Angleterre, enfin en Amérique du Nord. Et l'autre opérateur payant qui a réussi, c'est toujours ce groupe Naspers qui a un bras VOD. Qui s'appelle DSTV Box Office. Ils en ont lancé 2 autres, dont un pour le marché américain. Et eux annoncent un chiffre de 600 000 transactions par mois pour leur système de VOD. 600 000 transactions par mois. Voilà. Après, il y a des opérateurs, donc télécom, je disais, qui vont tenter de lancer de la VOD, mais ils sont obligés de passer des partenariats avec des plateformes VOD parce que un opérateur télécom, ce n'est pas un expert en VOD du tout. C'est 2 mondes différents. Donc, généralement, ils s'associent avec un acteur local et ils lancent leur offre VOD. Voilà. Alors, je crois que j'ai dépassé mon temps limite très largement. J'ai encore plein de chiffres, là. Donc, si vous voulez avoir des chiffres, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai également des chiffres sur la 4G. J'ai des chiffres sur les habitudes de consommation des médias au Nigeria. On a des chiffres gratuits sur notre site balancingact-africa.com. Il y a une étude gratuite sur la consommation des médias en Afrique. Il y a le chiffre, 700 millions de francophones en 2050. Ça, c'est un chiffre qui revient régulièrement dans la presse. C'est un enjeu pour les pays francophones. parce que 85% de cette population sera en Afrique en 2050. Voilà, donc il y a pas mal de chiffres qui commencent à émerger. Ce qui est bien aussi, c'est que sur ce secteur de l'audiovisuel, il y a énormément de communiqués, d'articles de presse, etc., qui ont été produits ces 5 dernières années. Au départ, il n'y avait rien. Il fallait appeler tout le monde, etc., essayer d'avoir les informations des régulateurs, des gouvernements, des opérateurs. Et aujourd'hui, ça y est, enfin, les sociétés ont commencé à prendre l'habitude en Afrique à fournir des communiqués sur les chiffres, ce qui se passe sur l'audiovisuel, lancement d'un programme, etc. Donc enfin, les chiffres commencent à apparaître et les langues commencent à se délier. C'est-à-dire si un opérateur payant commence à annoncer des chiffres, évidemment le concurrent va se dire « bon, bah, il va falloir qu'on annonce les nôtres, etc. » Donc voilà, ça bouge très très vite. La 4G est en train de se développer, est en train d'être lancée. J'ai vu, on compte le nombre de lancements de la 4G en Afrique. 39 lancements à ce jour dans 24 pays. La fibre également dans les capitales. Voilà, on peut également parler de la diaspora africaine, autour des 200 millions. Tout dépend si on comprend les descendants ou juste les expats, entre guillemets. Autour des 200 millions d'Africains d'origine diaspora africaine, etc., etc. Je vous remercie beaucoup et si vous avez des chiffres, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on les ajoute aux études, etc. Merci.
Thank you very much to both Sylvain and Robert. We have time now for a few questions before having a coffee break. Alors nous avons.
C'est bon, oui, ça marche. Oui. Bonjour, Sophie Guignard, Le Monde. J'avais une question pour Sylvain. Quand vous parlez des abonnés, vous n'avez pas parlé de moyens de paiement. Comment s'abonnent les Africains à tous ces services, notamment la vidéo on demand, etc.
Alors les abonnements varient évidemment pays par pays. Alors, soit on paie cash en espèces à la boutique, soit il y a des moyens de paiement mobile. Alors, on a fait une étude justement sur les moyens de paiement mobile. On en a dénombré 165 sur toute l'Afrique. 165 systèmes de paiement mobile, donc ça va du simple paiement au money transfer, aux assurances, etc. Enfin, maintenant, on rentre dans les services très sophistiqués. Puis après il y a la carte de crédit, enfin les moyens classiques. Mais par exemple Canal utilise des moyens de paiement mobiles dans certains pays d'Afrique. Ouais. Tout dépend de ce qui est disponible.
Oui.
Yeah. All right. Thank you so much. This is Stella and. I would like to ask Sylvain regarding satellite televisions in Africa. Most of the satellite televisions that transmit to Africa are based in either European countries or the US or Asia. And there is currently a trend where most of these channels are being kicked out of the satellites because of some interest groups, basically governments that are not interested with what some of the channels transmit through these satellite dishes. So how do you see the play of this jamming process on satellite transmission to Africa?
You're saying some governments are kicking satellite out? Yeah. In Africa, yeah. Yes. But I think that was specifically in, let me think, I think it happened once recently in Egypt. It might have happened in Sudan, or yeah, it's usually northeast Africa, yeah. Or maybe when there were some political issues with specific channels available via satellite, yeah, then they were stopped and yeah, yeah. Yeah, I mean, it happens on a regular basis, and usually Reporter Without Borders complaints on you know, the satellite industry complaints and everything. They say it's not democratic, but yeah, I think it's part of the daily routine in Africa. It's like attack on journalists and so on. It happens all the time. So yeah.
But how do you see its effect on the business?
Yeah, obviously it's not very good for the business. Yeah. But yeah, I mean it's my daily routine. Yeah. Yeah, every now and then I see press release communique about it, and but usually, you know, there's discussion and then it's back on air after a while. So, yeah.
Can you pass? Thank you.
Hello, I want to your view on some Francophone countries like Côte d'Ivoire, for instance. I think the French installations like Canal Horizon, my understanding is that they have hijacked these markets, just like you also cited Nigeria of hijacking markets and not allowing foreign influence into it, because I cannot understand why only state broadcaster exists in Côte d'Ivoire, while Canal Horizon sells satellites. So there is no opening of the market for the indigenous people. And democracy upon democracy, up to date as we speak, there is only a state broadcaster. How do you see that? Hijacking the business for only a foreign interest?
Yeah, so I can't speak for Canal Plus. I'm not Canal Plus. You know, I don't make decision in the broadcast business. But anyway, it's true that Canal Plus has been, you know, I gave a bit of background on their history in Africa. I think there are plenty of millionaires and people who can afford to launch pay TV platforms in Africa and who are Africans. That's the first thing. So I'm surprised there are not more African millionaires launching pay TV, you know, in Africa. There are a few in Nigeria, for example. In Senegal and Cameroon, many of them, and there are some very rich people behind them, because TV is not a small player's business. Huh? It's not web TV or a blog. You need millions to launch, you know, just a TV channel or a pay TV operation. So I'm just surprised that there are not more African launching pay TV. Now, this thing about hijacking, obviously, Canal Plus has got lots of financial power, and they've got expertise, and they've got good content. So obviously, they're trying to expand the business. You know, it's an economic strategy. But if they decide, you know, if they try and enter a country and there's political issues about it, they will just look at another country. That's another thing to take in. I'm trying to, you know, look at every different angle. So I'm thinking, hold on, you know, some Africans are complaining. They're saying, oh, you know, Canal Plus is arriving. It's like, you know, the majors trying to push their content in all territories. You know, either you take that on board and you say, okay, we're going to partner with them and trying to get expertise, training, whatever we can get from those guys, and try and sell African content, because they are buying African content right now from African producers. Or we just reject them and we set up our own stuff. So, you know, there's nothing, I haven't seen that many contenders. In Côte d'Ivoire, that's true, yeah, they haven't liberalized. There's still a main public TV channel, and then the rest are web TVs, yeah, so I'm just, yeah, surprised there's... But it's the Côte d'Ivoire government decision, you know? So I don't know what's going on. I'm surprised. Now, RTI has got big plans. The government has given them lots of money. They're going to produce lots of programs. They want to get involved into launching DTT. So hopefully things will change. There is actually, right now, there is an interesting player called TNT Sat Africa. He's from Mali. His name is the owner is CDB. He's launched already a pay TV platform, and he wants to launch what he calls TNT Sat Africa, which is a hybrid solution offering both DTT plus DTH, you know, satellite pay TV. So he's just launched that in Mali. Now he wants to expand in all Francophone countries, and he wants to sell that obviously to African governments. So he's trying to get into the DTT business because he's going to get lots of money if it's successful in the bid. He's going to. But Canal Plus, yeah, there's always a big thing about Canal Plus because they've got monopoly, because and so on. But I mean, I'm just surprised there's no more legal pay TV platforms, you know, from Africans launching. There's a gap there, really a gap, because when you look at piracy in some countries, it's 5 times the Canal Plus number. So, you know, if you sell at a pirate fee, if you do low cost pay TV, there's definitely a market to take here. So I don't know.
Do we have someone?
Thank you. I'm Christoph Spark from Zurich University of Applied Sciences. I have a question to Mr. Picard. You told us that the Western donors have an overemphasis on private media instead of community media. My gut feeling is it's the other way around. And especially regarding media sustainability, I have the feeling that we don't learn much from successful private media operations within Africa. Not from these international broadcasters, but do we learn enough regarding economic success from apparently economically viable media operations? Like, let's say, Kenya, there is, since 10 years, there is Citizen FM, a newly developed business, completely out of an African investment, or Tanzania, one of the richest men in Africa is Reginald Mengi, completely relying on media operations. He has a big media group there. And I got the impression Western donors are not approaching those. I don't know why, maybe of an anti-market feeling and only supporting community media.
Yeah, those are interesting questions. I think we have to make distinction between two types of donors, the government-based donors and civil society-based donors. Civil society-based donors are more interested in community organizations. Governmentals are more interested in commercial, for whatever reasons. I don't know why that's occurred, but I think you see a pattern in that. In terms of what can be learned, certainly things can be learned, but it can only be learned if people are open and transparent. And in some countries, you're not even transparent about who owns, much less transparent about what the basic finances are, because they're not required to put information into company registries and other such things. And so in some places, just your own books are seen as a strategic advantage, keeping it quiet. So it's hard to learn from them for those reasons alone. But it is something that will become more transparent over time as more investors become involved, particularly in the commercial sector.
Do we have some other questions? Yes.
My name is Emmanuel Luga Ndoka. My question goes to Dr. Picard. Within your presentation, you made mention of developing strategy for resilience. And so my question is, what do you think would be the best approach to adopt an industry that is witnessing constant change vis-a-vis its sustainability in Africa?
Well, Africa's not the only place with constant change. Media everywhere in the world today are struggling with that. But essentially, there are business strategies of how you handle uncertain environments and how you handle contingency planning and other such things. And so you have to decide when and how you're going to move before it even occurs.
So there are direct strategies for doing that that come out of business studies and others for companies to handle variations in what you think is going to happen to utter chaos. And it's a matter of teaching those techniques of how you prepare for those and what you do when things go on. At one point, you've got to have preparation. At other point, you've got to be a quick learner. And I remember in Zimbabwe during the massive inflation rates, media there had some of the best, quickest learning I've ever seen about what you do or don't do. Get rid of subscriptions immediately, things of that sort. Change your distribution patterns and others to control your costs. But there are things you have to do, and there are techniques and planning that you can put in place for that.
Thank you.
Yeah, I just ask you one question. Can you tell us a little bit more about what kind of programs you've been introducing in the university that have been developed by the UNESCO, and what kind of, you were saying that you are having mixed results. Can you tell us just quickly?
Well, if you look at the UNESCO curriculum, you can actually look at it. It's free and online, and you can find it. You'll see what it suggests. The reason I think we're having mixed results is that the people that are actually doing the education and training often are limited in their abilities to understand. Many times they haven't worked for companies. Many times they've never worked in a business environment. And they're having, I think, in some locations, more difficulty finding trained educators to be able to do it. In other cases, it seems to be working and developing nicely. And so you do have some reasonable media management education in South Africa. Kenya's developing it. You see it happening, but a lot of it is the personnel that are involved, because in many media and communication journalism schools, people come from journalism, not from the business side, and then they're trying to teach the business side, and they're really uncomfortable with it. So it becomes less effective.
Thank you very much. I would say we just break for a coffee break. And I just wanted to tell students that maybe are a bit shy in asking questions that they can do it via Twitter. They can tweet a question to our speakers, and then we will have somebody, we have Andrew collecting the questions, and we will ask the questions, okay? Okay, so let's have a coffee break, and we meet again here in half an hour. Thank you.